Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire sur RDIWA 107.5, l'émission d'astronomie amateur. On est content de vous retrouver en ce dimanche matin. Dans le studio, il y a Fred, Axel, Pierrick et Rémi.
Bonjour à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Alors donc, épisode 18 de l'Étoile Polaire. Le sommaire. Alors, on va commencer par le ciel ce soir, comme d'habitude. Décrire un petit peu ce qu'on peut observer en ce moment à l'œil nu ou au télescope. Ensuite, je ferai un petit point d'astro. Cette semaine, on parlera de, on va dire, l'état de la physique à la fin du 19e siècle. Après la pause musicale, ce sera la chronique spatiale de Pierrick qui nous parlera du voyage interstellaire. Et pour finir, Rémi, sa chronique sur l'astrophoto, il nous parlera du traitement d'image. Voilà pour ce sommaire. On vous rappelle que les émissions sont disponibles sur le podcast, sur le site de RDIWA. Vous allez donc rdwa.fr dans émissions thématiques, vous trouvez l'étoile polaire. Et là, vous avez accès à toutes les émissions, illustrées depuis quelques temps par les magnifiques photos de Rémi d'ailleurs. Profitez-en, rincez-vous l'œil,
c'est vrai.
Elles sont vraiment belles.
Ah oui.
Qui sont faites récemment en plus, qui correspondent au ciel actuel, donc c'est...
Tout à fait, et 100% d'IWA.
Ouais.
Voilà, on vous rappelle aussi...
Oui, il y a une boîte à questions.
Ouais, on vous rappelle aussi l'adresse mail de l'Étoile Polaire. Donc c'est astrordwa@protonmail.com. Si vous voulez nous joindre ou poser des questions, vous êtes les bienvenus, on y répondra dans l'émission. Voilà, je te laisse la parole Axel pour le ciel ce soir.
Merci Fred. Alors, le ciel de ce mois de janvier, enfin de cette fin de mois de janvier. Alors, au niveau planétaire, on n'a plus du tout Saturne et Jupiter. Il faudra attendre quelques mois pour les retrouver, leur brillant éclat. On a Mars qui est toujours bien placé au niveau des poissons, à peu près, en bas des poissons, qui a eu une belle conjonction, enfin, beau rapprochement, on appelle ça une conjonction, avec la Lune récemment. Voilà, les planètes plus lointaines sont toujours accessibles aussi, Uranus, alors là il faut des instruments plus gros, vous ne les verrez pas à l'œil nu, Uranus et Neptune, Uranus est toujours pas très loin de Mars d'ailleurs. Voilà, et puis au niveau des constellations, on a le lion, tu disais Rémi, qui arrive, qui montre le bout de sa crinière petit à petit. Le lion dans lequel il y a beaucoup de beaux objets à voir, de galaxies notamment, des amas de galaxies. Voilà.
Ça fera bientôt un an que l'émission existe, on en reparlera. Et du coup, le ciel a fait un tour sur lui-même.
Oui, c'est ça.
Donc du coup, si vous écoutez les émissions de l'année dernière sur la rubrique du ciel ce soir, en fait, vous allez retrouver aussi des informations qui sont applicables cette année.
Oui. Voilà, que dire de plus, je vous propose d'observer une nébuleuse que justement Rémi a photographiée récemment, la nébuleuse de la Rosette, qui est au pied d'Orion, enfin au pied d'Orion, qu'il faut partir de Rigel, je crois, qui est l'étoile en bas à droite d'Orion, et entre Rigel et les Gémeaux, vous avez cette très belle nébuleuse, la Rosette, que je vous invite à venir voir. En photo sur le site d'RDIWA, sur les podcasts de l'Étoile Polaire. Je ne sais pas si ce sera l'illustration de ce podcast, peut-être le prochain, mais voilà. Très bel objet en tout cas.
Merci Axel.
De rien.
Alors on va passer au point d'astro. Et donc comme je disais dans la présentation de l'émission, je vais vous parler aujourd'hui de la physique à la fin du 19e siècle. Alors... L'idée, en fait, c'est de se placer dans cette optique un peu... parce qu'elle est comparable, on peut comparer ce qui s'est passé à la fin du 19e avec ce qui se passe à la fin du 20e. On avait parlé de Maxwell. Vous vous souvenez, Maxwell, qui est donc les équations de Maxwell, donc qui est le père de l'électromagnétisme, en fait. C'est, l'électromagnétisme, ça avait été étudié tout au long du 19e siècle. Et ça avait été unifié par Maxwell. C'est vraiment lui qui a posé les quatre équations de Maxwell et donc qui permettent de décrire les comportements du champ électromagnétique. Alors, pour rappel, le champ électromagnétique, ça nous intéresse énormément parce que c'est la lumière. La lumière est une vibration électromagnétique. Et on a déjà évoqué ce thème à maintes reprises dans l'émission. La lumière, c'est quand même la source première d'information pour les astronomes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Donc, dans les équations de Maxwell, là, je vais développer un petit point de physique avant de rentrer dans des considérations un peu plus générales. Dans les équations de Maxwell, il y a un truc qui sort des calculs, c'est que si vous avez une particule chargée, donc par exemple un électron, typiquement, qui est accéléré, cette particule va émettre un rayonnement. Donc toute charge électrique accélérée rayonne. Rayonne, ça veut dire émet un signal électromagnétique, ça veut dire émet de la lumière en fait. Alors, de la lumière au sens...
Un photon, du coup ? Elle émet un photon, voilà. Ça peut être autre chose.
Exactement. Non, okay. Elle émet un photon. Alors, c'est... Donc là, en fait, je vais parler du principe d'une antenne, en fait. Parce que, évidemment, c'est de la lumière. Alors, de la lumière prise au sens large, hein, ça veut dire du rayonnement électromagnétique. Donc, ce que nous, on appelle dans le langage courant la lumière, c'est qu'une toute petite partie... du spectre possible. On l'avait déjà aussi maintes fois évoqué. Ce qu'on appelle le visible, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. Il y a aussi les ondes radio, il y a aussi les ondes thermiques, hein, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, ou même les ondes radio, celles qui vous permettent de nous écouter, par exemple. En fait, pour un physicien, c'est la même chose que la lumière, ça. C'est juste des longueurs d'ondes différentes, des énergies différentes. Donc, je vais parler du principe de l'antenne. Parce que c'est déjà parce que c'est intéressant en soi et aussi parce que ça va induire pas mal de choses. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Comment ça fonctionne une antenne ? Une antenne, vous avez, on va dire, à la base, l'antenne la plus simple, ce serait un fil métallique, un fil conducteur, un fil de cuivre, par exemple. Moi, je sais que mon grand-père, il faisait ça quand la radio, elle passait pas bien. Il branchait un fil de cuivre et il le déroulait jusqu'au plafond et ça faisait une antenne pour capter, quoi.
Dans notre folle jeunesse, je me rappelle avoir branché des fils électriques sur mes antennes de télé pour pouvoir... Ça capte mieux, là.
Et ça marche. Des fourchettes.
Ouais, mais ouais, ça, ouais. Ben voilà, mais c'est ça. En fait. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de métallique et de vertical, dans lequel les charges électriques, et donc les électrons, hein, puisque c'est ça, on a déjà parlé aussi, mais le courant électrique, c'est un courant d'électrons, donc un courant de charge, en fait. Alors, l'idée, c'est ça. Vous allez prendre un générateur alternatif. Donc, hein, quand vous vous branchez sur les prises électriques, c'est du courant alternatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les charges, elles circulent dans un sens, puis dans l'autre. Puis elles retournent dans l'autre sens, puis dans l'autre. Et en permanence, comme ça, ça change de sens. C'est ça, le courant alternatif. Donc, vous imaginez, en fait, dans l'antenne, vous imaginez, en fait, un courant qui va aller, on va dire, vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas. Et bien, quand vous faites ça, vous émettez une onde électromagnétique. Parce que les charges électriques qui sont accélérées ou décélérées, c'est, en physique c'est pareil, hein, que vous alliez de plus en plus vite ou de plus en plus lentement, c'est pareil. Vous changez votre vitesse, donc vous subissez une accélération ou une décélération. Et bien, dans ce cadre-là, vous émettez une onde électromagnétique. Et c'est comme ça en fait, qu'un émetteur radio fonctionne. En fait, on va envoyer un courant. À l'intérieur de ce courant, on met l'information en fait, de ce qu'on veut envoyer. Donc, par exemple, notre émission. Alors là, je passe les détails parce que c'est un peu plus technique. Mais le principe, c'est ça. Et donc, cette onde, elle se propage à travers le vide, en fait, ou l'espace. Bon, là, chez nous, c'est l'atmosphère, mais en fait, on n'a pas besoin d'atmosphère. Hein. La lumière, elle se propage dans le vide. On voit bien que la lumière des étoiles, elle nous arrive. Donc, c'est bien qu'elle n'a pas besoin d'atmosphère ou de quoi que ce soit pour nous arriver. Donc, vous avez cette onde qui est émise. Et si vous avez une antenne en retour qui va servir de récepteur, ben en fait, ça va faire bouger cette onde. Elle va faire bouger les charges à l'intérieur de l'antenne et vous allez récupérer votre signal, en fait, pour faire simple. En gros, c'est ça l'idée. Mais le principe physique de base, c'est cette idée qu'une charge accélérée, donc je répète, ou décélérée, va rayonner, c'est-à-dire va émettre un rayonnement, une onde électromagnétique ou un photon, ça on y reviendra, c'est la même chose, mais va émettre un rayonnement. Alors ça sort des équations de Maxwell et ça sort de l'expérience. Le pourquoi de ça, il est vraiment pas clair. Là, là, on touche un peu à une limite. Là, la physique, très souvent, en fait, on dit ah oui, la science apporte des réponses. Ouais, en partie. Mais si vous demandez à un physicien pourquoi, c'est pas vraiment la bonne question à lui poser. Lui, il va plus vous répondre comment.
Ouais, oui. C'est plutôt vrai.
Mais pourquoi ? Eh ben là, par exemple, pourquoi une charge accélérée rayonne ? Sincèrement, il n'y a pas de réponse simple. Ça sort des équations. On l'observe.
C'est comme ça, quoi.
Mais là, tout ce qu'on peut dire, c'est bah, la nature fonctionne comme ça.
Oui, voilà. Est-ce que la question est bonne déjà ?
Est-ce que la question est pertinente ?
Déjà, voilà, pertinente.
Ouais, tout à fait.
Du pourquoi. Oh, j'ai une petite anecdote à l'observatoire auquel j'officie de temps en temps. Une cliente, j'aime pas ce mot, une curieuse qui était venue observer nous a demandé pourquoi les étoiles brillent. Enfin, pourquoi les étoiles sont là ?
C'est pas tout à fait pareil, comme ça, pourquoi elles sont là ou pourquoi elles brillent.
Oui,
c'est
oui.
Nous, on peut expliquer, le voilà, physicien,
alors,
peut...
C'est ça, on peut expliquer comment voilà. Elles brillent, mais pourquoi, ça tient pas de la science, en tout
c'est
cas.
C'est ça, il y a quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, cette charge accélérée, elle rayonne. Si elle rayonne, ça veut dire qu'elle perd de l'énergie. Il y a toujours ce principe de conservation de l'énergie. Si vous émettez une onde, si vous émettez un signal, forcément, vous perdez de l'énergie. C'est comme ça. Alors voilà, on est là. On a ce principe de physique qui sort des équations, cette observation, une charge accélérée rayonne. Très bien. Alors maintenant, on revient au thème que j'ai annoncé au départ, la physique à la fin du XXe siècle. Et là, on a quand même un petit problème, parce que les physiciens à l'époque, ils ont fait ce qu'on a appelé et qu'on a déjà mentionné, le modèle planétaire de l'atome. Là, ils disent, voilà, l'atome c'est un noyau, et autour il y a des électrons. Donc, j'en avais parlé dans la dernière émission, on avait commencé, et là en fait c'est une thématique qu'on va développer et qui va gentiment au fil des prochaines émissions nous amener à la mécanique quantique en fait. Donc je vais essayer d'introduire un peu tout ça petit à petit pour donner au moins des petites clés de compréhension, au moins de dire bah, on parle de quoi, c'est quoi la mécanique quantique. Donc voilà, c'est un peu ça le but, mais ça va prendre du temps, donc on y va tranquillement. Là, on en est sur les charges qui rayonnent. Donc, les physiciens, à la fin du 19e, ils disent, OK, là, on étudie la matière et on observe, on a compris qu'il y avait des atomes, que ces atomes s'associaient pour faire des molécules. On a commencé à classifier tous ces atomes hein, avec Mendeleïev. J'y avais consacré une émission aussi. Voilà, on en est là. Maintenant, petit problème. Maxwell sort ses équations et il nous dit une charge accélérée rayonne et donc, comme j'ai dit, perd de l'énergie. Alors, on prend l'atome, son noyau et les électrons qui orbitent autour. Hein, toujours ce modèle planétaire, comme les planètes autour du Soleil. Mais là, on a un problème, parce que si ces électrons ils tournent autour du noyau, ils sont accélérés. Ah, alors ça, c'est une idée qui n'est pas forcément évidente, mais dans un mouvement circulaire, il y a forcément une accélération, en fait, qui est dirigée vers le centre.
C'est la gravité un peu
C'est l'équivalent de la gravité, ouais. Si on prend la Lune ou si on prend... voilà. Mais là, on est dans le domaine électromagnétique, mais c'est un peu la même idée. Il y a quelque chose qui vous attire vers le centre. Et donc, ce qui fait que, en fait, votre mouvement, il est circulaire, c'est comme si vous étiez tout le temps tiré vers le centre, en fait. Sinon, vous partiriez en ligne droite, et voilà. Donc, il y a une accélération qui associe un mouvement circulaire. Et donc, ça veut dire que les électrons qui tournent autour d'un noyau, dans ce modèle planétaire, eh ben, ils rayonnent. Puisque toute charge accélérée rayonne. Donc, ils perdent de l'énergie. Alors, ils font leur petit calcul. Quelle serait la durée de vie d'un atome ? Et ils trouvent 10 nanosecondes.
Ça fait pas lourd.
Ça veut dire 10 fois 10 puissance moins 9 secondes, c'est-à-dire 0,00000 secondes. Donc, en gros, on a ces gens qui sont quand même des scientifiques renommés, qui ont des postes importants, qui enseignent la physique, et qui sont en train de nous expliquer, ouais, on a un petit problème, en fait, c'est que dans notre description de la matière, ben, en fait, la matière ne peut pas exister.
Rien n'existe.
Alors là, on a quand même un souci. Et en fait, des soucis, ils en ont deux. Et il y a une citation, une phrase célèbre, en fait, donc, c'est Thomson, qui s'appelle aussi Lord Kelvin, donc, qui est assez connu... pour ses études de thermodynamique, pour les études sur l'atome. Bon, c'est quand même un physicien qui a beaucoup marqué la fin du 19e. Et lui, fin 19e, il dit « Il n'y a que deux petits nuages dans le ciel serein de la physique théorique. » Et donc, ces deux nuages sont alors l'effet photoélectrique et dans ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Alors, je vais consacrer les deux prochaines émissions, une au rayonnement du corps noir et à la catastrophe ultraviolette, et l'autre à l'effet photoélectrique, parce que ça mérite des explications et que je n'ai pas envie de surcharger cette émission. Mais voilà, ils ont deux petits problèmes. Mais en gros, c'est un peu la même... Et ce problème que je viens d'énoncer, qui est, nous, on fait une description de la matière.
Mais on ne devrait pas être là.
Mais en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que selon ce que nous, on enseigne, avec toute notre science, en fait, la matière ne peut pas exister. Deux petits nuages dans le ciel serein de la physique théorique. Et dans la suite de son discours, il prédisait que... Bon, on allait trouver une explication assez rapidement à tout ça, que c'était vraiment des petits problèmes. Sauf que, donc je répète, l'effet photoélectrique et la catastrophe ultraviolette dans le rayonnement du corps noir. Alors l'effet photoélectrique, je détaillerai. La catastrophe ultraviolette, juste pour mentionner, le rayonnement du corps noir, en fait, c'est quel est le signal émis par un corps qui a une certaine température. Voilà. Parce que, la signature thermique. Et ça, on le voit bien avec les images infrarouges, par exemple. Mais c'est transposable à toutes les longueurs d'onde, ça. Et en fait, dans ce modèle-là, ils essayaient de décrire ça. Et dans le modèle qu'ils avaient, en fait, ils partaient avec une énergie qui devenait infinie aux hautes fréquences. Donc c'est pour ça, aux ultraviolets. C'est pour ça qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. C'est-à-dire que grosso modo, si on les écoutait, vous mettez à côté d'un feu, en fait, vous allez être irradié à mort par des ultraviolets, des rayons gamma, etc. Or, on sait bien que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est juste un petit nuage dans le ciel serein de la physique théorique. Et l'effet photoélectrique, je détaillerai plus tard. Or, donc, la réalité, c'est que de la suite, en fait, c'est que ce modèle classique, ce modèle planétaire de l'atome, en fait, il est complètement faux. Il correspond pas du tout à la réalité. Mais il peut pas, puisque de toute façon, selon ce modèle, on n'existe pas. Donc, c'est bien qu'il y a un truc qui va pas. On sait bien qu'à côté d'un feu, on n'est pas irradié à mort. Donc,
il manquait
quelque chose. Et ça va mener à la mécanique quantique, en fait. C'est elle qui va venir. Et donc, ça va commencer en 1900 avec la physique des quantas. Et j'ai commencé à en parler la dernière fois en expliquant comment les photons étaient émis ou avec les raies d'absorption et les raies d'émission. Dans la dernière émission, j'ai parlé de ça en disant que les niveaux d'énergie des électrons, ce n'était pas n'importe quoi. C'était certaines valeurs et qu'on ne pouvait pas avoir entre les deux. Et donc l'idée de la quantification, l'idée que les valeurs ne sont pas continues, mais qu'elles sont discrètes. Voilà. Bon, j'espère que ce n'est pas trop théorique tout ça. Et je vais m'arrêter là sur la physique, sur les notions de physique. Mais là, donc voilà, il y a quand même cette idée de charge accélérée qui rayonne et du principe de l'antenne, que je trouve intéressant. Et cette mentalité, en fait, qu'on retrouve qui est à la fin du 19e, de dire, voilà, on a deux petits problèmes, mais c'est pas grave, on va trouver. Sauf qu'en fait...
C'était de l'humour à l'époque.
C'était pas des gens qui étaient très réputés pour avoir de l'humour, en fait. C'est ça que je trouve génial, en fait. C'est que c'est des gars qui sont super sérieux. Enfin, on a des gens qui sont issus de la bourgeoisie, qui ont des postes vraiment importants dans les universités, qui ont un rayonnement international, et qui se prennent très, très au sérieux. Quoi.
Ouais.
Et qui vous disent gentiment que, en fait, vous pouvez pas exister. Oui, c'est un petit problème, mais c'est rien. Vous voyez ?
L'avenir a montré qu'il... Tu avais un peu raison, enfin, ça a été mieux expliqué quelques dizaines d'années après. Quoi.
La suite a montré que tout ce modèle classique, il est complètement faux. En fait.
Oui.
C'était une étape dans la compréhension des choses, mais que c'était faux.
Oui.
Et le problème, en fait, sur la mécanique quantique derrière, c'est que c'est très peu intuitif, en fait. C'est difficilement
des fois,
vulgarisable.
C'est incompréhensible.
Limite contre-intuitif. Donc, on en parlera un peu plus dans les émissions suivantes. Et là, je voudrais faire un petit parallèle, en fait, avec la fin du 21e siècle, enfin, ou même maintenant. Ou si vous regardez un peu, donc là, on est très fiers, on a la mécanique quantique, ça fait 100 ans qu'on est dessus, ça a bien avancé. On a Einstein aussi qui est passé par là avec la gravitation universelle et donc les concepts d'espace-temps. J'ai déjà fait une émission là-dessus où on parlait du fait que la vitesse de la lumière, par exemple, était finie et que donc forcément il fallait revoir le concept de temps. Donc il est quand même allé assez loin, quoi. En disant que le temps n'était pas le même. On avait parlé de cette expérience, vous prenez une horloge atomique dans un avion, vous faites le tour du monde, vous revenez, en fait, le temps il s'est décalé. Donc là, voilà, on arrive vraiment un peu aux limites de ce que le cerveau humain il peut appréhender. Et là, si maintenant on se met à la fin du XXe siècle, ou même maintenant, on avait aussi consacré une émission à ça, il y a le problème de la matière noire. C'est un tout petit problème. Il y a juste 90% de la masse de l'univers, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est rien.
Un nuage.
C'est juste un petit nuage dans le ciel serein de la physique théorique. Vous voyez ? Donc, c'était ça, en fait. C'était ce parallèle-là, en fait. Je veux dire, là, on a quand même un gros, gros, gros souci. Donc, les scientifiques, malgré tout leur savoir, tout leur aplomb, ont quand même ce problème-là, qu'ils mettent sous le tapis. Et on nous dit, non, mais il n'y a pas de souci, on va trouver ça avec la théorie des supercordes, avec tout ça, on va élucider ce mystère. En attendant, 90% de la masse de l'univers est introuvable, est invisible, on n'a aucune idée de la nature, de sa nature. Je vous renvoie à l'émission que j'avais consacrée à ce sujet pour plus de développement. Là, ce qui m'intéressait, c'était de faire ce rapprochement entre les prémices de la mécanique quantique et notre époque. Voilà. Je vais m'arrêter là. Super. On va faire une petite pause musicale. Et cette semaine, on va écouter un Bob Dylan, The Times They Are Changing.
Je peux rajouter un petit... Tu disais à un moment qu'on dit que la science apporte des réponses. Moi, je le vois plutôt comme elle apporte des questions, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette discipline, c'est qu'il y a un côté infini.
C'est infini. Mais quelque part...
Il y a quelque chose qui me passionne là-dedans, tu vois, comme avec Le Seigneur des Anneaux, où Tolkien disait qu'un univers est intéressant, donc son univers, quand il y a toujours plus de questions, et c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse, mais quand il y a toujours quelque chose de flou et qu'on cherche, et ben c'est... Ça peut expliquer, je trouve, son succès depuis bientôt 100 ans, cet univers du Seigneur des Anneaux, et expliquer de la même manière ma passion pour les sciences, qu'il y a toujours à creuser, toujours quelque chose à aller voir, toujours des remises en question à avoir. C'est ça qui est chouette.
Mais je dirais que quand on discute avec un chercheur un peu ouvert, c'est pas le cas de tous, mais un chercheur un peu ouvert, il dit, moi de toute façon, voilà, je travaille sur un sujet, j'apporte des réponses, chaque réponse soulève 10 questions.
Oui, c'est ça.
Et ça, ils sont lucides là-dessus quand même. On n'a pas affaire qu'à des gros arrogants, heureusement.
Oui, c'est sûr.
Il y en a, mais heureusement, voilà, il y en a aussi d'autres. Donc ils sont très lucides sur cet état d'esprit où effectivement on a une espèce de questionnement en cascade. On résout un truc, on pose encore plus de questions au final qu'au départ. Et c'est sans fin, effectivement. Et non seulement c'est sans fin, mais en plus, il y a un truc qui est quand même intimement lié à la physique, c'est la technologie. La technologie, c'est une application de la physique, toujours. Et il y a toujours un aller-retour, en fait, parce que plus vous développez la théorie, plus vous développez du coup aussi la technologie, donc les instruments de mesure, plus vous faites des mesures précises, plus vous êtes obligé d'affiner les modèles, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, votre modèle, il n'est pas exactement correct.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, il y a cet aller-retour-là entre la technologie, et particulièrement les instruments de mesure, et la théorie. Quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est sur ces liens et différence aussi entre science et technologie. Souvent, on fait l'amalgame, mais ce n'est pas du tout la même chose, en fait.
Mais les scientifiques et les ingénieurs sont, selon le contexte, à dissocier. Quoi.
Ils travaillent ensemble.
Oui, voilà.
Mais la logique n'est pas la même, en fait. Entre on cherche le pourquoi ou disons le comment, et ensuite chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Ouais, c'est ça.
Et autant la science peut être critiquable parfois dans sa prétention, dans son arrogance, dans le fait de « moi j'ai la réponse et tout ce qui est en dehors de ce que moi j'ai dit, ça n'existe pas », parce que ça c'est quand même un discours qu'on peut entendre régulièrement. De la même façon, la technologie elle pose plein de questions. Par exemple, franchement, on peut se poser la question, mais est-ce que le jour où on a inventé le moteur à combustion, on n'aurait pas mieux fait de se casser la jambe? C'est une question qu'on peut vraiment se poser.
Bien sûr, alors que la science elle fait que rechercher sans application, du coup.
C'est ça. Là où la technologie elle cherche à construire des choses, souvent dans l'idée d'améliorer aussi la vie des gens, mais sans forcément réfléchir à l'impact réel.
Ouais.
Et donc là se pose la question aussi de la sagesse, quelque part, et de la lucidité des choses. Bon, voilà, là, c'est tout un débat ouais. qu'on ne va pas faire maintenant.
Non, maintenant, c'est Bob Dylan.
On vous laisse avec Bob Dylan.
Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. Donc après cette petite pause musicale, merci Bob, on va passer à la chronique spatiale de Pierrick qui va donc nous parler du voyage interstellaire.
Ouais, pour cette chronique, comme la dernière fois, j'avais parlé du satellite Gaïa qui avait fait un peu une carte de notre ciel proche, on va dire, dans notre Voie lactée. Et du coup, j'avais envie de parler un peu de comment on pourrait faire pour aller sur d'autres systèmes stellaires, donc d'autres étoiles à proximité de notre Soleil, sortir de notre système solaire, en fait. Donc, il y a eu des gens qui ont réfléchi là-dessus, quand même.
Et les aborigènes qui disent qu'ils vont sur la Lune depuis plusieurs milliers d'années. Je le mentionne simplement.
Et lesquels ?
Non, les aborigènes.
Australiens ?
Ouais, Australiens.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais avec leur conscience. Ils projettent leur conscience sur la Lune.
Avec la conscience, tout est possible, je crois. Mais pourquoi pas, hein ? Peut-être un jour, l'humanité arrivera à ça. Et donc voilà, c'est un vol entre deux systèmes. Donc, c'est différent d'un vol interplanétaire, où là, on va de la Terre sur la Lune, sur Mars, sur les planètes proches. Donc actuellement, avec les technologies qu'on a, il faudrait 100 000 ans pour aller à, en gros, hein, entre 80 000 ans et 100 000 ans pour aller sur Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous. Et donc, si je fais abstraction des vaisseaux de génération, donc le vaisseau de génération, c'est quoi ? C'est, imaginons qu'on construise un vaisseau qui, avec les technologies actuelles, qui soit tellement énorme qu'il parte sur Proxima du Centaure. Et ben, il faudrait plusieurs générations pour arriver là-bas. Donc ça, c'est un peu des arches.
Ouais, une sorte de ville flottante.
Ouais, voilà, où on part très très longtemps. Ou alors la cryogénisation, bon voilà. Tous ces délires-là, je ne suis pas encore allé voir. Peut-être à explorer ça à un moment. Donc, pour vous faire une petite idée des distances, la distance Terre-Lune, c'est 1,3 seconde-lumière. Donc, la vitesse de la lumière, je le répète, hein, c'est 300 000 km/s. Donc, ça, voilà, c'est une échelle, quoi. Le système solaire, il, en gros, toutes les planètes de notre système se situent entre 2 minutes-lumière à 6 heures-lumière. Voilà, donc la planète la plus lointe, Neptune. Voilà. Et alors que l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est à 4,2 années-lumière. Oui. Donc années-lumière, donc à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km/s.
Pour aller sur la Lune, qui est un peu plus d'une seconde, il nous faut déjà quelques jours.
Trois jours.
Trois jours, ouais, voilà. Ouais. Donc pour faire 4 années-lumière, c'est sûr, c'est pas gagné.
Ouais. La sonde Voyager que vous pouvez retrouver dans le podcast de l'étoile polaire, dans la première émission, j'avais fait un topo là-dessus, qui est l'objet construit par l'être humain le plus loin qu'on ait envoyé, est à seulement 0,002 années-lumière. Bon, voilà.
Mais sorti du système solaire, quand même.
Qui est en bordure du système solaire, on va dire.
Vers l'interstellaire.
Ouais.
On avait parlé de l'héliosphère, qui est un peu la zone autour du Soleil. Enfin, chaque étoile en a une, mais une zone autour, on va dire, qui est sa zone d'influence, mais qui fait un peu moins d'une année-lumière, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est assez étendu, quand même.
Ouais, c'est assez énorme comme truc. Et donc, comment on pourrait faire ? Donc, il y a plein de gens qui ont théorisé des trucs, il y a même des essais, il y a pas mal de choses pour ça. Et... le truc, voilà, c'est la voile solaire, le truc qui serait le plus probable un jour. Ça serait, donc, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est une grande voile dans l'espace où, comme on disait, comme il n'y a pas de frein dans l'espace et que les photons ils arrivent et ils tapent dedans, la lumière tape dans la voile, ça ferait avancer. Donc voilà, ça c'est une idée qui est expérimentée, qui est utilisable de manière petite, quoi, on va dire. Voilà, parce que toutes les choses faites pour voyager, c'est vraiment de la conservation de la quantité du mouvement. Donc c'est vraiment c'est l'expulsion d'une masse, quoi. C'est les moteurs à ergol qui propulsent des gaz, etc. et qui poussent l'objet. Donc ça, on peut aller à 20 km/s à peu près, en moyenne, ça dépend, hein, mais en gros, c'est ça. Après, il y a aussi les moteurs ioniques. Donc ça, j'en avais déjà parlé pour une sonde. Et ça, c'est des propulsions, donc dans la même idée, mais électromagnétiques, qui sont propulsées avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut être proche du Soleil pour pouvoir avancer. Donc quand on s'éloigne de notre Soleil, c'est pas évident. Voilà. Après, il y a d'autres propulsions. Vassimir, donc ça, c'est un espèce de... c'est un peu entre les deux, entre le moteur ionique et le moteur classique, voilà, qui pourrait, en fonction des besoins, passer d'une propulsion à un autre. Donc voilà, c'est intéressant. Tout ça, c'est des projets qui sont en élaboration, quoi. Et après, donc, il y a la propulsion nucléaire thermique. Donc ça, donc thermique, je précise, parce qu'il y a d'autres propulsions nucléaires. Donc ça, c'est un réacteur nucléaire à bord d'une sonde qui permettrait de chauffer un fluide et l'expulser via une tuyère. Donc on est un peu dans le même système, mais avec un réacteur nucléaire. Là, je tourne ma page. Et à ce sujet, il y a le projet Dédale qui a expérimenté ça dans les années 73-78. Donc leur délire, c'était de réfléchir sur une sonde qui pourrait aller sur l'étoile de Barnard. L'étoile de Barnard, elle est à 6 années-lumière de nous. Et on... À l'époque, et toujours maintenant, on est sûr maintenant, je crois qu'il y a une planète qui orbitent autour et que bah, ce serait bien d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et donc ils ont imaginé un vaisseau qu'on construirait en orbite terrestre qui pèserait 54 000 tonnes, oui. Dont 50 000 tonnes de carburant. Donc voilà, c'est pour imaginer le délire impossible à réaliser, ou alors en mettant des moyens inimaginables. Et en théorie, hein, tout ça c'est théorique, le vaisseau atteindrait 7% de la vitesse de la lumière et il mettrait 46 ans pour faire le voyage. En fait, l'idée de ce projet Dédale, c'était d'avoir une sonde qui fasse le trajet en une vie humaine. Voilà. Après, il y a le projet Longshot aussi dans les années 80. Alors eux, ils avaient prédit 100 ans pour aller sur Proxima Centauri. Le projet Icar, ça c'est un autre projet par fusion nucléaire. Et ça, tout ça c'est théorique. Et il y a un truc qui a retenu mon attention là-dedans, c'est la propulsion nucléaire pulsée. Alors ça a été vraiment été testé. C'est sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on commençait à maîtriser l'énergie atomique. Ils se sont dit, pourquoi on ne mettrait pas sous les fusées des bombes nucléaires, alors des petites, hein, j'entends, et qu'on les ferait exploser, et que l'explosion propulserait le vaisseau en l'air. Donc ils ont vachement bossé là-dessus. Et donc ils avaient imaginé un vaisseau de 40 mètres de large et de 80 mètres de hauteur, chargé de petites bombes nucléaires, pour pouvoir partir dans l'espace. Ça a vraiment été développé. Mais en 1963, ils se sont arrêtés de le faire parce qu'il y a eu un traité d'interdiction partielle d'essais nucléaires. Comme c'était quand même un peu craignos, ils ont arrêté de faire ça.
Mais ça, c'est dommage parce que là, vu la quantité d'ogives nucléaires qu'on trimballe sur la Terre, ça serait une belle occasion d'en faire quelque chose.
Ça, au lieu de se les foutre sur la gueule, on pourrait
envoyer... partir dans l'espace, ce serait plus intéressant. Ouais.
Et c'est exactement ce qu'il disait Freeman Dyson. Donc c'est un mec, j'ai fait un petit focus sur lui parce qu'il...
Les sphères de Dyson.
J'en parle après. Et du coup, pour l'armée, pour la NASA, tout ça, c'était un projet fou, dangereux, c'était pas possible. Et du coup, ce mec, Freeman Dyson, il a déclaré en 65, c'est la première fois dans l'histoire moderne que la technologie d'une expansion majeure de l'humanité est enterrée pour des raisons politiques. En fait, pour lui, voilà, c'était un projet très viable et dommage d'arrêter là et que effectivement, on fait des bombes pour se les foutre sur la gueule, pourquoi on ne ferait pas des bombes pour voyager. Voilà. Et donc, ce mec, quand même, a créé les sphères de Dyson. Et ça, c'est quand même une sacrée idée.
Carrément.
Donc, ça, l'idée de ça, c'est de construire autour d'une étoile une espèce d'énorme sphère qui capterait toute l'énergie de cette étoile pour la transformer en énergie utilisable. Je trouvais ça génial comme idée. Dans Star Trek, il y a un épisode qui en parle.
Je ne sais plus du tout les ordres de grandeur, mais il disait que si on captait la totalité de l'énergie d'une étoile qu'elle émet pendant une seconde, on a assez pour alimenter la Terre pendant des milliers d'années ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est l'énergie déployée par une étoile est énorme.
Il y a aussi une échelle qui a été faite comme ça, de mesurer le développement d'une civilisation, enfin le développement technologique d'une civilisation, à la quantité d'énergie qu'elle est capable de manipuler. Oui. Donc nous, on approche, on va dire, d'utiliser une énergie. Nous, on n'utilise rien du tout, en fait. On utilise un peu ce qui nous arrive depuis la Terre, sur la Terre depuis le Soleil, avec les panneaux solaires, les choses comme ça. Mais je pense qu'avec toutes les bombes qu'on a, il y avait quand même cette idée des calculs qui avaient été faits. On est capable de dévier la Terre de son orbite si on les fait toutes péter au même endroit, par exemple.
Là, actuellement, toutes les bombes...
On ne pourrait pas détruire la Terre, mais on pourrait la faire dévier de son orbite avec des conséquences probablement incalculables pour la vie, en tout cas, sur Terre. Voilà. Donc, l'idée de Dyson, c'est de dire une civilisation qui pourrait utiliser l'énergie d'une étoile. Là, il y a une vraie avancée, parce qu'effectivement, c'est quand même la source, en fait, c'est la source d'énergie de l'univers. Ah, le oui. reste, c'est du bricolage. La radio,
ouais, le
même
reste, c'est la conséquence, quoi. Un peu.
Ouais, ouais, c'est ça.
La source, c'est ça. Quoi.
La source de lumière, la source d'énergie, c'est les étoiles. Donc, si on arrive à capter ça, à l'utiliser, ben, c'est sûr que d'un coup, on s'affranchit de plein de problèmes. Quoi. Mais ça pose des problèmes technologiques de fou. Enfin, enserrer le soleil dans une sphère, enfin, déjà, ça nous masquerait sa lumière. Enfin, ça pose plein de problèmes. Donc, ensuite, il faut l'acheminer. Enfin, bon, c'est... Ouais, on n'en est pas là, quoi. Non. On n'en est pas là du tout. Mais effectivement, il avait développé ces idées-là. Et après, c'est... il avait développé, utilisé l'énergie de tout un système planétaire, puis après d'une galaxie, etc. Bon, ah oui, on en est très, très loin. Là, on est dans la science-fiction. Mais il avait imaginé ça.
Mm. Ouais, c'était un sacré mec, apparemment. Et donc, ouais, pour quelles sont les contraintes, en fait, liées à un déplacement interstellaire ? Eh ben, en fait, le milieu interstellaire n'est pas complètement vide. Il y a toujours un peu de poussière, il y a toujours des trucs qui traînent. Et donc, ça peut être un problème si on percute un objet lors des déplacements. Ça peut être aussi, c'est éloigné, comme toute aventure dans l'espace. Difficilement, il n'y a pas de bateau de sécurité, de sauvetage pour s'en aller. Il y a un problème de communication aussi, parce que communiquer, même à la vitesse de la lumière, il faut des années... qu'on pourrait pas communiquer ou très peu. Il y a aussi des températures extrêmement froides, 2-4 Kelvin. Mmh. Ça fait moins 270 degrés en gros. Donc là aussi, il faut réchauffer tout le système. Même si c'est de l'informatique, de l'électronique, il faut le réchauffer et ça, c'est pas évident. Pour les humains, il y a aussi plein de problèmes d'absence de gravité et de rayonnement cosmique qui provoque des cancers, etc. L'absence de gravité aussi sur l'être humain, on voit ceux qui passent beaucoup de temps sur la Station Spatiale Internationale, ils reviennent, ils sont physiquement affaiblis.
Et encore, c'est qu'un an.
C'est un an, ouais, au maximum. Longs, ouais.
Ils ont grandi, de quelques centimètres.
Ouais,
ils ont grandi, ouais.
Tu perds de la masse osseuse, ils ont des problèmes oculaires, d'ophtalmo.
Quoi. Ah ouais.
Chose voilà. Comme ça.
Tous ces problèmes, c'est vraiment pas évident à résoudre. Et il y a aussi l'effet relativiste. Donc là, on va partir un peu plus loin. C'est qui commence à 1/10 de la vitesse de la lumière. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que donc là, on est lié à des modifications de l'espace-temps, quoi. C'est que plus on accélère, plus la masse du vaisseau augmente. Donc si on va à plus d'un dixième de la vitesse de la lumière, la masse du vaisseau va augmenter. Et du coup, plus le vaisseau est lourd, et plus il faut de l'énergie pour le propulser. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc un peu sans fin, qu'on n'arrivera jamais à... Enfin, j'en sais rien, mais...
Ouais. Les effets... En fait, pour compléter un peu ce que tu dis, les deux obstacles quand même majeurs au voyage interstellaire, effectivement, c'est la distance et le temps, on va dire, et par rapport à l'échelle de vie humaine. Et le truc, c'est que si on veut... atteindre effectivement ces étoiles dans un temps relativement envisageable pour un esprit humain, il faut arriver à des vitesses qui soient proches de celles de la lumière. Donc tu parles à partir de 10% de la vitesse de la lumière, ça fait déjà 30 000 km par seconde.
Ouais.
On en est loin. Tu parlais de 20 km par seconde, ça ouais. C'est ce qu'on sait faire.
Ouais.
Et il faudrait qu'on arrive déjà à 30 000 pour commencer à ressentir ces effets. Et ces effets, ils peuvent jouer aussi en notre faveur, parce que quand on approche en fait de la vitesse de la lumière, effectivement le temps ne se passe pas. J'avais commencé à parler de ça, ce qu'on appelle la contraction des longueurs ou bien la contraction du temps.
C'est un autre truc, ça veut dire l'écoulement du temps.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, si vous mettez, c'est un paradoxe des jumeaux en relativité générale, vous mettez quelqu'un dans un vaisseau spatial et vous l'envoyez, sur Terre, il va s'écouler 10 000 ans. Mais lui, dans son vaisseau qui a une vitesse proche de celle de la lumière, il va s'en écouler 40. Et donc, quand il revient sur Terre, il revient. Donc, lui, il a vieilli, il a continué sa vie, mais sur Terre, la civilisation qu'il a expédiée là-bas, elle est déjà morte, en fait. Donc, c'est des délires comme ça.
Ouais.
Ou alors, vous imaginez aussi un vaisseau qui part, type Arche, sur plusieurs générations, avec la technologie qu'on a maintenant. Et vous imaginez que dans 200 ans, l'humanité a atteint un niveau technologique qui fait qu'elle arrive justement à ces effets relativistes. Vous pouvez imaginer l'Arche qui se fait doubler par des vaisseaux qui sont partis 200 ans plus tard.
Plus rapide.
Bon, enfin, il y a tout un délire comme ça qu'on peut... Mais voilà, en fait, c'est... de toute façon, le problème, il est là. Il est d'arriver à atteindre des vitesses proches de la lumière avec les effets relativistes. Mais de toute façon, du coup, il y aura ce décalage temporel entre la civilisation qui a émis ces vaisseaux et le vaisseau lui-même. C'est insoluble.
Ouais, c'est insoluble, parce qu'on ne rajeunit pas pour autant, hein, même si le
temps passe pas pareil. Ah non, on ne peut pas rajeunir. Ça ne va pas marcher. Un cœur de jouvence, ça ne va pas fonctionner.
Mais Superman qui tourne à l'envers plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Donc voilà, et comme les distances sont énormes, on n'a pas le choix. Parce que même pour la lumière, en fait, hein, on dit notre galaxie, elle fait à peu près 100 000 années-lumière, autour de 100 000 années-lumière
de
diamètre. Bon, ben voilà, même pour la lumière, il faut 100 000 ans.
Ouais, c'est énorme.
Donc nous, il y a 100 000 ans, on avait découvert le feu, mais voilà quoi.
Ça aussi, c'est une limite scientifique qu'a posé Einstein, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Non. Et ça, est-ce que
c'est vrai?
Est-ce qu'un jour, on va se dire, ah bah si, on peut...
Parce qu'après, il y a toutes les théories de trous noirs, trous de ver, où l'espace-temps se replie, et donc on trouve des espèces de raccourcis. Mais voilà, mais là, on rentre dans des considérations vraiment complètement théoriques.
C'est de la SF, quoi. C'est de la science-fiction.
C'est pas de la science-fiction.
C'est de l'imagination.
Il y a un gros problème aussi, c'est que même si on accélère très vite, qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière, après, il faut freiner. Parce qu'il faut bien s'arrêter un moment, sinon...
Et puis ce que tu disais, et ça peut prendre des années, juste pour ralentir. Et ça pose des problème dont tu parlais, qui fait qu'effectivement l'espace c'est majoritairement du vide, mais pas que, et qu'à ces vitesses-là, comment anticiper la navigation, en fait, là-bas il y a un astéroïde, déjà il faut le détecter parce qu'il n'émet pas de lumière, il y a plein de trucs qui émettent zéro lumière dans l'espace. Et c'est clair qu'à ces vitesses-là, vous prenez un débris de 1 mm, le vaisseau il explose. Donc c'est insoluble.
Donc on n'ira jamais sur une autre planète.
Un atome, est-ce que ça devient dangereux aussi à...
Comment ?
Est-ce qu'un atome devient dangereux aussi, une collision avec juste un atome ? Parce qu'on sait qu'il y a des petits...
Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre.
Si tu parles de débris d'un millimètre, mais...
Rien que la Space Shuttle, là, ils avaient pris un petit éclat sur le pare-brise. C'était un éclat de peinture d'une sonde précédente qui dérivait autour de la Terre. Et ils avaient failli exploser, en fait. Ils avaient juste fissuré le pare-brise. Mais bon, et ils étaient qu'à quelques kilomètres par seconde. Et donc, voilà. Donc, en fait, on peut dire que le voyage interstellaire, ça fait rêver. On peut projeter des choses. Donc, ils ont effectivement testé au niveau technologique
plein de choses.
Mais pour l'instant, c'est complètement inaccessible à l'homme dans l'état de ses connaissances.
C'est ça.
Et tu as pas parlé du moteur d'Alcubierre ?
Non.
Tu n'as pas lu là-dessus ?
Non.
Alcubierre, c'était un scientifique, enfin, j'imagine, je ne sais pas exactement, mais qui avait imaginé quelque chose pour régler un peu tous ces problèmes de collision, notamment, et d'accélération. C'était que le vaisseau en lui-même et l'espace qui est autour de lui ne se déforme pas, n'accélère pas. Vous imaginez vous déplacer dans l'espace, mais là c'est l'espace autour de vous qui se déplace en contractant à l'avant du vaisseau l'espace-temps et en le gonflant à l'arrière du vaisseau, et ça fait une sorte de différence de potentiel, de vague, et vous tombez vers l'avant et tout ce système se déplace petit à petit, et en fait on fait que tomber mais sans accélérer.
Et comment il fait pour déformer l'espace ?
Tu le demanderas.
Non, mais voilà,
ça sera notre invité à la prochaine émission.
Bien,
mais c'est sûr, ça reste complètement de la science-fiction. Mais voilà, c'était l'idée que c'est tout un système qui bouge et que les occupants du vaisseau et le vaisseau lui-même, dans leur espace, ne bougent pas. Et c'est le reste qui se déplace autour.
Un bouclier aérodynamique.
Ouais, une sorte de... Tu crosses devant, tu gonfles derrière, tu vois, et du coup tu glisses. Et c'est le tout qui bouge. Je trouve ça marrant.
Jusqu'à un trou noir où là, tu peux aller plus loin encore.
Je sais pas. on invitera M. Alcubierre pour l'émission.
Pour développer son idée.
Voilà.
Mais ouais, en tout cas, il y a plein de théories... qui sont, comme tu expliques, assez intéressantes et peut-être accessibles un jour.
En tout cas, c'est stimulant. Ça stimule l'imagination. Du coup, ça pousse à chercher des choses nouvelles parce qu'on a envie de ça. Il y a quand même une part en nous. Si on te dit, tiens, voilà les clés du vaisseau spatial, vas-y, va faire un tour. Ben ouais.
Ah ouais, cool.
Donc forcément, ça, au moins, c'est ça, ce côté stimulant et ça fait avancer.
Il faut des théoriciens, des... Là, tout ça, ça a été décrit 1900. Il y a plein de choses comme ça qui ont été les premiers auteurs de SF. Ils ont commencé à décrire des arches pour voyager, des choses comme ça. Donc. Voilà, il faut toujours des théoriciens au départ qu'on prend pour des fous, puis petit à petit, ça change. Voilà.
Merci, Pierrick, pour toutes ces considérations philosophiques. On va clôturer ce 18e épisode de l'Étoile polaire par la rubrique consacrée à l'astrophoto de Rémi, qui cette semaine va nous parler du traitement des images.
Oui, voilà, on continue un peu l'astrophotographie, les procédés d'acquisition, les différents domaines d'application. Et du coup, là, je voulais parler du traitement des images, le pourquoi on empile des heures et des heures de signal, à quoi ça sert, disons, et comment on va s'y prendre. Donc, pour rappeler que pour faire entrer beaucoup de lumière, on fait des expositions longues sur un capteur numérique, que ce soit caméra CCD ou appareil photo, réflexe, quoi que ce soit, il faut ouvrir longtemps, c'est-à-dire on va poser 3 minutes, 5 minutes, ça peut être plus. Et le problème auquel on va faire face, c'est l'image, elle va se détériorer en même temps qu'elle accumule du signal. En même temps qu'il y a de la lumière qui rentre, le capteur, lui, d'une part, il va chauffer et il va donner lieu à des déformations dans l'image, à des défauts. Et donc, tout le signal qui va être reçu va être un petit peu perdu, un peu noyé dans ce qu'on va appeler le bruit numérique. Le bruit numérique, ça s'apparente un peu à du grain sur des photos argentiques. Ça peut se comparer aussi à une sorte de souffle en audio, alors que normalement c'est le silence, mais voilà.
Oui, c'est comme si le fond de ciel, d'un coup, il est plus noir, en fait. C'est comme s'il y avait des choses qui apparaissent.
Ça peut être sur le fond de ciel, parce que principalement, la couleur noire, elle est assez sensible au bruit, elle révèle beaucoup. Donc il y a plusieurs types de bruit. Il y a le bruit de luminance, donc là, ça va être tout ce qui est contraste lié à la luminosité. Tous ces bruits, dans le noir et blanc, quoi. Et puis après, il y a le bruit chromatique qui va concerner les couleurs, où là, les variations de couleurs, elles vont pas être vraiment assumées. Le capteur, il va nous faire des trucs un peu grossiers, quoi, disons, dans l'échelonnage des couleurs. Donc, c'est principalement pour ça qu'on va empiler une série de photos, le maximum qu'elles soient. C'est-à-dire que ça va être pour augmenter le rapport signal-bruit. On va essayer de se débarrasser de ce bruit ambiant qui détériore les photos afin d'avoir une image la plus nette possible. C'est-à-dire qu'en astrophoto, contrairement à la photographie en général, la photo de paysage ou quoi, le cerveau, l'œil humain, il est apprêté à accepter des défauts. C'est-à-dire qu'on peut avoir des détails... qui sont pas nettes sur les bords d'image, dans la profondeur de champ ou quoi, et c'est pas un problème. C'est-à-dire que sur les photos de jour, les photos sur la Terre ou quoi, le cerveau l'assimile très bien, c'est pas choquant. Alors que quand on regarde une image du ciel, une image dans l'espace, une image nocturne, là, le moindre défaut, il va devenir choquant, quoi. On doit s'attendre forcément à une image nette, à une image profonde, contrastée, une image juste, quoi. Donc voilà, le fait de traiter les photos par empilement, ça va faire qu'on va faire évacuer le bruit. Et donc c'est, comme je disais, un procédé d'empilement. C'est-à-dire qu'on va analyser chaque photo, chaque pixel de chaque photo, pour déterminer qu'est-ce qui est du signal véritable, qu'est-ce qui est du bruit. La seule chose qui les différencie, c'est que le signal, il est toujours reproduit à l'identique. Alors que le bruit, il est vachement plus aléatoire. C'est là qu'on va pouvoir le déduire. Donc ça, c'est le principe d'empilement. Et on fait une moyenne entre le bruit et le signal. Et ça nous permet de trier. C'est de cette manière-là où une photo brute, ce qu'on appelle une photo brute, c'est une pose unique. Elle contient tout le signal, elle contient toute l'image qu'on veut voir, mais elle est vraiment polluée par tout ce bruit. Alors que si on en empile 100 des photos comme ça, tout le bruit ou une majeure partie va disparaître. Et c'est là que la photo s'annoblit, disons, qu'elle devient un peu parlante, quoi. Donc ça, c'est le principe d'empilement. Et à ça, il y a d'autres procédés annexes qui sont quasiment systématiques dans les photos du ciel profond et en grand champ, hein, les voies lactées aussi, ça s'applique. C'est des séries de photos qui contiennent des informations de défaut. C'est des photos témoins, disons, qu'on appelle les DOF. Donc c'est trois séries différentes, c'est une abréviation pour parler des photos dark, des photos offset et des photos flat. Donc là, on n'est plus en train de cibler un objet dans le ciel. Là, on fait des photos, par exemple, une photo dark, c'est une photo dans le noir. On met le capuchon, on prend une photo au même temps de pose que celle qu'on a captée sur l'objet, avec la même sensibilité ISO, la même température. C'est surtout ça qui est important. Et dans cette photo noire, quand on la regarde et qu'on l'analyse, on va voir des pixels qui apparaissent rouges, qui apparaissent verts, qui apparaissent blancs, bleus. Et ça, c'est des défauts liés à la montée en température du capteur. C'est-à-dire que ça n'existe pas un capteur qui a pas de défaut, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on fait des empilements et qu'on soustrait ces photos dark, notamment. Les dark, je dirais que c'est le plus important. C'est-à-dire que si on n'en fait pas, on voit que c'est flagrant sur une image. On a des points là, qui n'ont rien à voir avec la cible, avec l'image proposée. Donc, ces darks-là permettent de soustraire tous ces pixels défectueux. Et étant donné qu'on empile une série d'images en grand nombre, on va proposer d'aller chercher des pixels de remplacement sur les autres images d'après. C'est ça encore le principe d'empilement qui va faire que bon, si on a une centaine d'images du même objet à proposer pour du tri, hein, on fait du tri de pixels, eh bien ça va nous permettre de dégager tous les pixels défectueux, tous les pixels problématiques. Donc voilà, les darks permettent d'évacuer le signal thermique. Après, les offsets, eux, permettent d'évacuer tout ce qui est signal électrique lié au défaut de lecture du capteur, quoi. C'est-à-dire c'est pareil, c'est une photo dans le noir qu'il faut prendre avec un temps de pose le plus court possible. Et là, si on analyse la photo noire, on verra qu'il y a des sortes de lignes horizontales, verticales, un peu comme sur un écran quand c'est un peu brouillé ou quoi. Donc ça, c'est pareil. À chaque fois qu'un capteur prend une image, elle est détériorée par ce signal électrique. Donc les offsets sont là pour ça. Et pour finir, on a les images flat. Donc, plage de luminosité uniforme. C'est-à-dire que là, par contre, on prend une photo, soit un ciel bleu, soit une lumière blanche homogène. Il faut bien régler l'exposition pour ne pas cramer l'image, c'est-à-dire que les informations restent exploitables. Et là, ça va nous révéler tous les défauts dans le train optique, c'est-à-dire tous les problèmes liés aux poussières qu'il peut y avoir sur les lentilles, sur les miroirs, sur le capteur. Et également tout ce qui est vignettage, artefacts, tout ça, toutes des choses qu'on retrouve dans le train optique et donc qui sont apparents dans chaque image d'objet qu'on a photographié. Donc à partir de là, avec toutes ces informations de défaut à travers ces photos dark, offset et flat, ça va nous permettre d'évacuer tous ces défauts. Déjà, ça se sera fait et on va vraiment gagner en netteté. Donc ça, c'est tout le procédé de pré-traitement qui fait qu'on va pré-traiter chacune de notre série d'images en soustrayant tous ces défauts. Après quoi, le procédé consiste à faire un alignement, étant donné qu'on a forcément un petit décalage entre chaque image. Hein, ça peut être léger, hein, de quelques pixels, mais... Le procédé d'alignement est très important, quoi, pour que toutes les photos s'empilent pile poil. Donc, bien sûr, on se sert des étoiles pour aligner. Les étoiles, les plus petites qu'elles soient, permettent de situer où est l'image, l'une par rapport à l'autre. Et à partir du moment où on a fait l'alignement, on passe à l'empilement. Et donc c'est là que se passe le rejet du bruit et qu'on fait un empilement par médiane, ce qu'on appelle. Et donc on retrouve une image relativement fidèle. Et au passage, ça fait aussi s'effacer tout ce qui est traîné de satellites. Tous les parasites qui peuvent passer dans le ciel et qui se mettent sur l'image. Donc,
les avions.
Voilà, étant donné qu'il y a plusieurs milliers de satellites d'avions. Bon. C'est pas un problème d'en avoir sur quelques photos. Il faut pas que ça, mais ce procédé d'empilement et de traitement d'image permet d'évacuer ces traînées lumineuses. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour ça. Donc à la suite de quoi, on a une image un peu particulière, dans un format un peu particulier aussi, sur laquelle il reste un peu de travail, disons. Il va falloir régler la balance des couleurs, parce que c'est quelque chose qui se perd au traitement. Donc là, il y a plusieurs procédés, il faut faire des échantillons dans les zones de l'image. On va principalement sélectionner le fond de ciel pour lui donner une teinte, c'est-à-dire que dans le noir, on peut avoir plusieurs nuances, quoi. Et spécialement avec les capteurs couleurs, il faut savoir que voilà, un capteur couleur, ça fonctionne par paire de pixels. Enfin, pas par paire, mais ils sont quatre. Il y a un rouge, un bleu et deux verts. Comme il y a trois couleurs qu'on exploite, le rouge, le vert, le bleu, il fallait en mettre deux. Et donc, ils ont choisi le vert, ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Et le problème qu'on a en astrophoto, c'est que le vert, c'est une couleur qui n'existe pas dans la lumière visible dans l'espace. C'est une couleur qu'on ne retrouve pas. Donc ces pixels verts, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi faire, donc ils se manifestent. Et c'est ce qu'on appelle le bruit vert. Donc c'est encore un autre type de bruit. Et donc avec l'empilement, ça permet aussi d'évacuer ce bruit et de retrouver une tonalité de couleur qui est assez fidèle. Voilà, à partir de là, on va étirer un peu l'histogramme parce que c'est une image qui est assez compressée. On va étirer le signal pour pouvoir l'exploiter ensuite. Et donc ça, c'est la principale méthode d'empilement, de traitement des photos. Et après, on va dans un programme plus pour régler les niveaux, la colorimétrie, des choses comme ça. Après, c'est de la finition, c'est ce qu'on appelle le cosmétique. Et, bon, après, c'est régalade. Après, c'est la question de goût, question d'éthique, de ce qu'on veut. Mais après, c'est à partir de là, on fait un petit peu ce qu'on veut avec l'image, quoi. Au niveau de la colorimétrie, donc ça, c'est propre à chacun, quoi.
C'est-à-dire que toutes les couleurs de tes photos, c'est toi qui les rajoutes? Ou c'est la véritable couleur que l'appareil photo prend?
Non, c'est moi, je shoote en capteur couleur, donc c'est des couleurs qui sont acquises. Et après, on va régler les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut agir un petit peu. Alors bien sûr, on peut délirer, on peut mettre la couleur opposée, mais on va régler la teinte, mais chaque lumière qui est captée dans l'appareil, elles vont être proportionnelles l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'une couleur va être proportionnelle. Si une image, il y a plusieurs couleurs, le rapport, il va rester identique. Donc on peut retravailler un petit peu sur la saturation, des choses comme ça, comme en noir et blanc, on va travailler les niveaux, les contrastes, voilà.
Et ça, du coup, c'est en numérique?
Ouais, c'est principalement...
À l'époque analogique, ça devait être...
À l'époque...
C'était du sport,
Bah, rien à voir, ouais. Mais là, en fait, c'est intéressant tout ce que tu décris, parce que moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'on fait en astrophysique, ou enfin en physique en général, où de toute façon, on passe notre temps à faire des mesures. Et quand tu fais des mesures, il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours des choses.
Des erreurs.
Voilà, donc le traitement de données. Là, toi, tu vois, tu traites quelque part, c'est une donnée, hein, ton info, ton image, et toi, tu le fais dans le but d'avoir une belle image. les astronomes ils vont le faire dans le but d'extraire des informations exploitables pour confirmer ou infirmer leur théorie ou voilà. Mais en fait le principe du traitement de données il est le même et le traitement de données c'est un truc en astrophysique qui occupe une part énorme du travail en fait. Et développer des algorithmes de traitement de données etc. C'est un travail qui est pas forcément super gratifiant.
Non, ça peut avoir un côté
c'est un travail
très
de fourmi en fait, mais qui en fait est complètement nécessaire et que tu retrouves voilà juste le parallèle avec la science là de ce que toi tu décris, c'est exactement la même démarche, extraire le signal le plus pur possible et s'abstraire de toutes les déformations et de toutes les sources de déformations. Ça c'est clair qu'on le fait en permanence.
Ouais, il y a quand même pas mal de parallèles, même jusque dans la spectroscopie. C'est-à-dire quand on va shooter avec des filtres à bande étroite, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une toute petite partie du spectre de lumière visible. Et donc là, ça va nous donner des images hyper intéressantes en noir et blanc, hein, bien sûr, mais parce que du coup, on n'aura pas cette comparaison avec les autres couleurs. On n'aura pas toute la plage de couleurs, mais par contre, on aura tous les reliefs existants. On aura vraiment tout le potentiel de contraste quoi, donc là l'image elle va vraiment pouvoir ressortir au mieux, donc ouais c'est un procédé un peu fastidieux mais qui vaut vraiment le coup quoi. C'est à partir de là où là on commence à embellir les photos, on sent que plus on travaille là-dessus plus les photos elles vont avoir de la pureté quoi. Alors après il y a plusieurs je parlais d'éthique un peu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs démarches là-dedans. Il y en a qui vont faire du hyper flashy. Aux États-Unis, l'astrophoto, c'est un petit peu comme Hollywood, quoi. Enfin, c'est hyper poussé, quoi. Les mecs poussent les curseurs à fond. Il faut que ça brille, il faut que ça pète. Alors que, voilà, on peut... C'est question de goût, disons. Voilà, c'est pour se faire plaisir.
On reste dans l'esthétique, quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un truc esthétique. Après, voilà, il y a d'autres choses accessibles, notamment voilà, des transits de comètes, des choses comme ça, des trucs plutôt démonstratifs, mais sans ça, ouais, le but, ça reste quelque chose de contemplatif quand même, l'astrophoto amateur.
En tout cas, quand on voit le résultat de tout ça sur les images que tu nous proposes là et qu'on met sur le podcast, franchement, chapeau Rémi, c'est vraiment beau.
Je vous remercie, c'est un plaisir de les partager ici. Et puis encore une fois, si vous qui nous écoutez avez des questions à ce sujet-là ou à d'autres, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre.
En tout cas, merci, parce qu'on voit aussi que pour obtenir ce type de photo, il ne suffit pas de prendre son smartphone et de le tendre à bout de bras vers le ciel. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve ça chouette de quelque part de se prendre la tête dans le but de faire quelque chose de beau et de montrer le ciel dans toute sa beauté, ça fait plaisir.
Super.
Merci à toi, Rémi.
Merci à vous tous.
On espère que... Vas-y.
J'ai envie de faire un petit parallèle avec ce que tu disais sur le traitement des données, essayer de s'affranchir des erreurs mécaniques ou autres. Rémi parlait pour l'astrophoto, tu parlais pour les mesures en général. Et j'ai fait le parallèle avec juste les informations qu'on reçoit en tant que personne, qu'on nous rapporte quelque chose. Et que peut-être des fois, on n'essaye pas de s'affranchir des biais, des erreurs et tout ça. Et donc on peut parfois prendre des informations pour argent comptant.
Alors qu'un bruit de fond, voilà, la rumeur.
Alors qu'il peut y avoir du bruit de fond, il peut y avoir des artefacts.
Tu parles de quoi?
Pas forcément.
Je parle d'un truc précis ou...
Non, je parle pas d'un truc précis, je parle juste de...
En règle générale.
Ouais, voilà, en règle générale, quand on reçoit une information, on fait pas forcément toujours cette démarche. Et c'est une discipline que j'apprécie, qu'on appelle l'esprit critique ou la zététique. Et je pense que je ferai quelques chroniques là-dessus à l'avenir dans cette émission, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Voilà, comment s'affranchir des artefacts et du bruit de fond.
Vaste programme.
Laisser place à l'autodidacte.
On vous remercie d'avoir suivi cette émission et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.